Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour cette seconde émission où nous recevons, je pense, dans une certaine grâce, en tout cas en ce qui me concerne, le père Laurent Milan. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder l'émission antérieure afin d'en savoir plus sur le père Milan, à reprendre un petit peu peut-être cette discussion semi-théologique. Et aujourd'hui, nous allons avoir le grand plaisir de parler avec le père Laurent Milan, qui est donc curé de Montfavet en Vaucluse, à côté d'Avignon, donc Montfavet. On va vous parler de ce sujet très intéressant qu'est le patriotisme. Et Charles, tu voulais dire un mot dans cette introduction?
Oui, je voulais dire quelque chose. C'est que la précédente émission du Père Milan avait eu un accueil assez favorable. Un peu plus de 20 000 personnes l'avaient regardé, ce qui était très bien. Et on avait eu beaucoup de demandes de faire plusieurs émissions. Donc, la décision a été prise à l'Institut des Libertés de sélectionner le Père Milan comme notre directeur spirituel, si j'ose dire. Et on va faire des émissions avec lui sur des grands thèmes, parce qu'il y a quelque chose qui est tout à fait en train d'être perdu. C'est cet immense trésor de sagesse qui existait dans l'Église catholique, qu'on le veuille ou non, qui a duré qu'à demi 20 siècles à être monté. Les grands saints, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, etc., qui ont beaucoup réfléchi. Et on ne transmet plus cette connaissance ni aux enfants, ni aux adultes. On est maintenant dans une espèce de marxisme un peu bête. Donc ce que je dis aux gens, c'est maintenant on va essayer, avec l'Institut des Libertés et avec l'aide du Père Milan, de lentement mais sûrement vous faire, on va faire une émission tous les deux mois, ou je sais pas combien, où le Père Milan viendra, vous expliquera une idée importante à la lumière de ce que dit l'Église catholique, la sagesse, et puis on passera à l'émission suivante, comme ça au moins vous aurez un endroit, bon, on sera 6 ou 7 émissions, où vous pourrez retrouver ces idées et détruire le logos actuel, dont vous savez que c'est mon ennemi, qui est fait pour vous empêcher de réfléchir. Alors mon père, re-bienvenue.
Merci pour votre invitation à tous les deux encore.
Et puis, donc aujourd'hui, on va parler du patriotisme, parce que dans cette espèce de logos imbécile, l'idée qu'on puisse aimer son pays, pour certaines personnes, c'est anti-chrétien. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'ils disent qu'ils sont bêtes?
Ce qui est certain, c'est que je voudrais d'abord rappeler que l'Église va d'abord recueillir la sagesse humaine naturelle, comme un fond. La grâce ne remplace pas la nature. Ça, c'est très important et c'est au cœur de tous les thèmes que nous aborderons et de la position de l'Église. C'est qu'on pourrait imaginer que finalement l'Église dise ben, les réalités d'ordre naturel, on s'en occupe pas, ou alors elles sont mauvaises, elles sont sous la domination du diable ou je ne sais quoi, et puis nous on se met à part dans un ordre religieux entre soi. Ce n'est pas le cas. La grâce et les mystères de la foi sont ancrés dans aussi les réalités d'ordre naturel, puisque l'auteur de la nature est Dieu, et de l'ordre naturel, c'est Dieu lui-même, et l'auteur de la révélation divine, chrétienne, spécifiquement chrétienne, c'est Dieu lui-même aussi. Donc Dieu n'étant pas schizophrène, c'est le même qui est auteur de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel. Et pour cette raison, vous verrez que beaucoup d'éléments de la sagesse humaine sont le socle, en quelque sorte, de l'enseignement de l'Église. Et je voudrais rappeler ce principe théologique, mais que les gens comprendront bien, qui est une clé, c'est que la grâce ne remplace pas la nature. Je vais expliquer ça, par exemple, si je suis malade, j'ai une grippe, eh bien, je vais essayer de me soigner avec des médicaments, du repos, etc. Mais imaginez que quelqu'un me dise, mais non, mais pour te soigner, il suffit que tu pries.
Oui.
Et tu vas guérir. Ben non, la grâce ne remplace pas la nature. Mais tout en me guérissant avec des moyens naturels, je peux aussi prier pour la guérison de quelqu'un. Mais vous voyez, c'est pas l'un ou l'autre. L'Église catholique tient toujours ce « et », cette fameuse conjonction de coordination. C'est pas « ou bien », mais c'est les deux ensemble.
C'est pour ça que nous ne refusons pas, nous, catholiques, en tout cas, les transfusions sanguines, ou ainsi de suite, ce que certaines religions, je crois que
les témoins de Jéhovah
refusent les transfusions, ou même certains autres peuvent refuser les cœurs de porc ou des
ah oui.
Voilà.
Les greffes.
Les greffes. Parce que souvent, c'est le porc et le
plus proche de l'homme.
Le plus proche de l'homme quand on doit faire des greffes.
D'accord. Mais vous remarquerez que ces dernières années, l'Église se bat sur le terrain de questions d'ordre naturel qui peuvent être tout à fait partagées avec tout homme ou femme de bonne volonté. Parce que, par exemple, défendre la vie, n'est pas réservé aux chrétiens.
Non, bien sûr.
Ça relève simplement de notre nature humaine de défendre notre prochain, notre semblable, et surtout dans la dimension la plus fragile et la plus faible, dans le ventre de sa maman ou de celui qui est malade, ou du plus fragile. Donc voilà, je voulais dire en préalable que, et parce que ça touche directement notre sujet du patriotisme, la grâce ne remplace pas la nature, et que donc, si la charité fait de tout homme mon prochain, potentiellement, et elle ne supprime pas en justice l'amour préférentiel pour les siens. Vous voyez, il faut arrêter de penser la foi chrétienne comme quelque chose qui supprimerait ou qui serait contre nature.
Donc vous voulez dire que si je dis dans le fond, j'aime bien le monde entier, mais dans le fond, mes enfants, mes petits-enfants ou ma famille, mes frères et sœurs, j'ai une petite préférence, ça c'est pas mal, ça peut être accepté ça.
Non, parce que je pense que c'est pas une petite préférence qu'il faudrait que vous ayez. Oui, vous devez avoir une grande préférence pour les vôtres. Une grande préférence, pourquoi ? Déjà la nature même de l'amour, c'est que l'amour par définition est préférentiel.
Ouais.
Voilà, et c'est pas parce que, et il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'imaginez, un mari qui ne préfère pas sa femme à sa voisine, ça posera problème. Voyez, et là on est
mari de la voisine en tout cas.
Voilà. Donc, mais ça veut dire aussi que concrètement, c'est le sujet dont nous allons parler maintenant. Le patriotisme est une question de justice. Donc, dans l'ordre, non pas la justice légale, mais la vertu morale de justice, à savoir pour chacun d'entre nous dans cette qualité morale qui va consister à rendre à chacun ce qui lui est dû, le bien qu'on lui doit. Voilà, et c'est dans cette vertu générale de justice, rendre à chacun ce qu'on lui doit, respecter son bien, le bien de l'autre, c'est la vertu qui, dans laquelle la volonté, nous avons une volonté ferme et constante de rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est donc dans la relation aux autres, et donc nous sommes dans cet ordre-là, c'est là-dedans que nous allons comprendre le patriotisme. Et le patriotisme, donc d'abord, peut-être allons-nous distinguer dans cette vertu de justice, rendre à chacun ce qui est dû, nous devons la dette principale, parce qu'il y a une dette, ici on ne va pas parler de la dette financière et économique.
Non, mais il y a une dette morale.
Mais il y a une dette morale, et notamment une dette morale vis-à-vis de ceux de qui nous recevons la vie. Donc, ultimement, Dieu lui-même, qui est le créateur de nos existences et de nos vies, et la justice que nous devons lui rendre à Dieu, la gratitude que nous devons lui rendre, ça s'appelle la religion. La religion, c'est la forme de justice que nous devons à Dieu en réponse au don de la vie qu'il nous a fait. Et c'est le retour de gratitude, et c'est juste. Il est juste de remercier Dieu pour le don de la vie qu'il nous a fait. Et dans l'ordre naturel, cette justice envers Dieu, par laquelle on rend à Dieu le juste culte, donc la réponse à Dieu, c'est un culte. Pour chrétiens, pas simplement rituel, mais un culte existentiel, le culte de notre cœur, l'amour de notre cœur. Eh bien, ce retour vers Dieu par rapport au don que nous avons reçu, don gratuit de l'existence, hein, il est immérité pour chacun d'entre nous, ça s'appelle la religion. Mais cette vie qui ultimement vient de Dieu, elle nous est transmise par nos parents. Donc il y a aussi en justice une gratitude que nous devons avoir envers nos parents qui nous ont transmis la vie. Et ça s'appelle la piété filiale, et c'est aussi une vertu.
Si on va vers les 10 commandements, il y a le premier qui dit « tu respectes Dieu », et le deuxième c'est « tu respecteras ton père et ta mère ».
C'est le quatrième commandement, et effectivement, le patriotisme est rattaché au quatrième commandement « honore ton père et ta mère ».
Or, la patrie, c'est là où est enterré ton père, ta mère et tes ancêtres.
Et donc, le troisième niveau de justice vis-à-vis de ceux envers qui je dois quelque chose, c'est la mère patrie. Car nos parents sont nés et nous ont transmis la vie dans un cadre culturel avec un héritage et qui nous a donné notamment la langue pour parler. Cette langue, elle est héritée, on ne la construit pas chacun, à chaque génération. Donc, nous avons hérité d'une langue, d'une culture, d'une vision du monde, etc.
De racines.
De racines. Et donc, très justement, on peut parler de mère patrie. Et donc, la vertu par laquelle, en justice, on rend un culte à la mère patrie, on a ce retour de gratitude vis-à-vis de la mère patrie, ça s'appelle le patriotisme. Et j'insiste, c'est une vertu morale.
C'est une vertu morale. C'est-à-dire que dans beaucoup de civilisations, comme chez les Chinois par exemple, il y a le culte des anciens. Et le culte des anciens, si je comprends bien ce que vous dites, dans le fond, c'est pas très loin du patriotisme, quoi. C'est un peu ce dont on vient.
Exactement. C'est la notion de piété filiale. Et on sait, par exemple, chez Confucius et toute la civilisation qui en est issue, enfin chinoise, il y a comme au fondement de cet ordre social la piété filiale.
La piété filiale.
C'est-à-dire là où il n'y a plus de piété filiale, il n'y a plus de piété envers Dieu, il n'y a plus de piété envers la patrie et tout s'effondre.
Le respect des vieux, ça, je le vois très bien quand je suis en Asie, c'est que les gens me regardent avec sympathie parce que maintenant je suis vieux. Alors que dans le fond, en France...
Tu n'es pas vieux, tu as juste les cheveux blancs.
Oui, c'est parfait, elle est bien cette enfant.
Mais vous avez encore des cheveux.
J'ai encore des cheveux, oui. C'est mieux que la plupart des... Donc je veux dire par là, c'est qu'il y a... C'est une espèce... Le patriotisme, c'est un petit peu ce qui nous relie, ce que disait ma chère mère. Dans le fond, elle disait, moi j'ai donné la main à ma mère, et puis j'ai donné la main à mes enfants. Donc c'est une espèce de liaison comme ça, au travers du temps,
de chaînes
qui se donnent.
De transmission.
De transmission qui se donne. C'est ça le patriotisme?
Exactement. Enfin, la patrie, il faut rappeler ce que ça veut dire. On va peut-être distinguer quelques mots, justement, pour ne pas les mélanger, et puis surtout pour leur donner notre définition, pour que ce ne soit pas d'autres. On va y revenir sur la question de la guerre du langage, c'est-à-dire que quand vous voulez changer les idées, vous commencez par interdire des mots ou à changer le sens des mots. Donc je voudrais qu'on commence par repréciser le sens des mots sur patrie, nation, peuple et état pour faire des distinctions qui nous aideront, je pense, à y voir plus clair. Mais la patrie, c'est la terra patrum en latin, c'est la terre des pères, la terre des ancêtres.
Là où votre père est enterré.
Exactement. Et au-delà du territoire, ça ne se réduit pas un territoire, ça veut dire le patrimoine matériel et immatériel, spirituel, dont nous héritons. C'est ça au sens le plus global.
La patrimoine, ça veut dire ce qui vient du père.
Eh oui, et la patrie, patrimoine, nous sommes exactement dans cette idée d'héritage, de transmission. C'est-à-dire que dès que nous naissons, nous recevons en héritage, en quelque sorte, une somme de culture, une somme d'histoire, etc., par le simple fait de naître. Ce que va développer d'ailleurs le concept de nation. Et justement, je voudrais qu'on n'oppose pas patrie et nation, qu'on fasse des distinctions, mais sans les opposer. Parce que amour de la patrie ou amour de la nation, au final, c'est la même chose. Mais donc, la patrie, pour distinguer de la nation, ça mettra d'abord plutôt en valeur la dimension de patrimoine transmis. Et encore, j'insiste bien, patrimoine à la fois matériel, pas seulement territorial, pas simplement charnel, mais aussi spirituel, immatériel, toute une culture, une mémoire collective, etc.
Donc le patrimoine, une partie du patrimoine pour la France, c'est ce qu'on appelle l'héritage chrétien ou catholique. Ça fait partie.
Ah ben exactement.
Ça fait partie de cette espèce de choses qui nous a porté depuis des siècles.
Exactement, même.
Mais quelque part, la gastronomie.
Le
bœuf bourguignon, la choucroute, la blanquette font partie d'un patrimoine, bien
exactement.
Sûr. Il est immatériel et il fait partie de nos racines.
J'ai un petit-fils qui est américain, mais qui est des tendances françaises assez nettes. La première chose qu'il a fait quand il arrive des États-Unis, c'est qu'il se précipite pour acheter du saucisson.
Oui.
Mais ça c'est hérité, si j'ose dire.
Oui.
C'est...
Et ça fait partie, effectivement, de ce patrimoine hérité. Donc, surtout ne pas réduire la patrie à un territoire. Ça serait totalement insuffisant pour comprendre ce qu'est la patrie. Après, on peut distinguer donc la nation plutôt. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est toujours sous des aspects différents, mais c'est très proche. Il ne faut pas opposer la nation plutôt considérée comme communauté d'identité. Une communauté d'identité qui, au départ, est fondée, je dirais, sur une ethnie commune ou prépondérante qui va produire une culture commune et qui va avoir, par le développement de sa vie, une histoire commune et un destin commun.
Alors c'est drôle cette histoire de nation, parce qu'on a récemment travaillé autour d'un livre d'héritage d'histoire française, et il y avait une très nette opposition entre les Gaulois, souviens-toi,
et les Francs.
Et au fur et à mesure, les différents peuples se sont plus ou moins rattachés à nos ancêtres les Gaulois ou nos ancêtres les Francs. Mais on a quand même trouvé à la source cette antinomie. Et par ailleurs, des gens comme Michel Onfray vont vous dire « La nation française n'existe qu'à compter de la Révolution française. C'est la Révolution française qui donnera ses lettres à la nation. » Donc je voulais vous faire réagir sur ça, parce que pour moi, il me semble que c'est faux.
Il y a en fait, si on regarde l'histoire de France et l'histoire des idées, une rupture très nette à la Révolution française. Il y a deux conceptions, en quelque sorte, de la nation et de la patrie. C'est-à-dire, il y a un auteur, Jean de Viguerie, je vous invite à lire son livre, qui s'appelle « Les deux patries », un historien spécialiste de l'histoire moderne, donc du XVIIIe siècle, spécialiste de la Révolution, et qui a écrit un très bel ouvrage à ce sujet, « Les deux patries ». Vous avez la conception, j'allais dire traditionnelle, héritée des siècles, où la patrie, la nation, ici, c'est la même chose, c'est cet héritage dont nous parlons, qui se transmet, on est français, avec tout ce que cela comporte d'héritage culturel, humain, etc., et spirituel, religieux, etc. Et puis, à la Révolution française, comme cet héritage culturel français a été construit par l'Église catholique avec les rois, on a voulu, si j'ose dire, faire une croix dessus. Donc, il a fallu construire une nouvelle conception qui élimine le passé. Du passé, faisons table rase, n'est-ce pas ? Il y en a d'autres qui le diront plus tard, mais ça vient de là. Et donc, qui vont imaginer une nouvelle conception de la nation qui sera une adhésion aux valeurs républicaines. Donc, on n'est pas obligé de naître français. Ce n'est plus une question liée à un héritage, c'est une adhésion idéologique. J'aimerais savoir d'ailleurs, dans les valeurs républicaines, est-ce qu'il y a le droit de la peine de mort pour les enfants à naître dans le ventre de leur maman, ou de la peine de mort pour les malades à bout de force,
Ou dont on a envie de prendre l'héritage.
Dont on a envie de prendre l'héritage. Est-ce que dans les valeurs républicaines, il y a le fait de récompenser les feignants et de taper sur ceux qui travaillent? Je ne sais pas, c'est peut-être ça les valeurs républicaines. Alors, dans quel cas, je ne le suis pas du tout, je vous le dis tout de suite.
Mais
et l'Église non plus.
Dans une certaine mesure...
L'Église, il y a une partie du corps de l'Église qui a absorbé ces valeurs républicaines un peu trop à mon goût. Et je veux dire par là, quand vous voyez la parabole des talents, s'il y a un truc où on vous dit qu'il ne faut pas payer les gens de rien foutre, c'est celle-là, quoi. Et ça ne fait rien. Eux, ils prennent de l'argent, ils recommandent de prendre de l'argent à celui qui a fait 4 talents pour le donner à celui qui n'a rien fait, quoi. Donc, il y a quand même une partie de l'Église qui considère que le partage obligatoire fait partie du christianisme, alors que le christianisme a toujours été le don et volontaire.
Exactement, et la charité est toujours un acte libre et individuel, parce qu'il y a des gens qui sont très généreux, mais avec l'argent des autres.
Oui,
vous voyez,
ça,
ce qui est toujours plus facile. Comme
Oui, ça coûte moins cher aussi.
Surtout si vous voulez être élu, à ce moment-là, vous prenez le pognon des riches, vous le donnez aux pauvres. Il y a beaucoup, comme il y a plus de pauvres que de riches, hélas, à ce moment-là, vous faites élire, quoi. Ce qui est quand même un peu curieux. Volant, parce qu'il s'agit de voler. Hein.
Donc, vous avez une conception, on va dire, révolutionnaire de la nation, qui est une adhésion à des valeurs dites républicaines. Et encore une fois, il ne s'agit pas de contester la République en tant que régime, mais il s'est créé une République à la Révolution, non plus un régime politique comme l'était la monarchie et comme la République peut exister par ailleurs, mais la République est devenue une religion. Et donc, elle a son pape, elle a son clergé, elle a ses tables de la loi, et vous devez vous soumettre à ses valeurs si vous voulez être membre. Si bien que, avec cette idéologie qu'il y a derrière, et il faut le dire clairement, qui vient de la franc-maçonnerie, pour donc faire un trait sur la réalité naturelle, historique de ce qu'est la France avec son identité, eh bien, on a cette ouverture à l'universel, tout être humain, peut être français, ça ne correspond pas à une réalité héritée, mais ça correspond simplement à une valeur idéologique. Il suffit d'adhérer aux valeurs républicaines et n'importe qui. Voilà. Donc on a transféré la conception ancienne de la patrie, qui est donc cette identité héritée, mais qui est ouverte, qui peut accueillir des gens qui n'avaient pas cette identité à l'origine. Mais l'identité, elle est claire. Pour pouvoir intégrer, il faut être soi-même. Enfin, je veux dire, il faut être... Et on l'a transféré uniquement, donc d'un domaine, je dirais, qui relève d'une réalité quasi naturelle, en quelque sorte, qui va se développer dans l'histoire. On va le transférer dans un domaine de l'idéologie politique.
Et alors, une question ici. Ces gens-là qui ont cette religion de remplacement, etc., ils trouvent que ceux qui ont leur religion ancienne sont insupportables ?
Ah ben bien sûr, le but c'est, si vous voulez, en gros, si vous
donc
aimez...
Donc ils ne sont pas du tout tolérants avec eux.
Ça c'est sûr, mais vous voyez bien que le but est d'éliminer les conceptions traditionnelles, en quelque sorte, de la patrie, avec tout ce qu'elle véhicule, qu'on essaye d'oublier ou de faire oublier, c'est-à-dire de toute cette sagesse héritée de l'Antiquité, du christianisme, tout ce capital de travail, d'efforts, de sacrifices de nos ancêtres pour construire notre pays, nous transmettre nos valeurs, faire la beauté. Enfin, encore une fois, quand on admire la France, on peut voir la beauté des paysages. On pourrait dire l'homme n'est pas pour grand-chose, mais pour tout le reste, c'est le lien d'ailleurs avec la patrie, c'est que Il y a une espèce de, comment est-ce qu'on peut dire, de réciprocité entre le travail de l'homme sur un territoire, qui va travailler ce territoire à son image, en quelque sorte, et en même temps, le territoire va travailler sur vous. Vous travaillez la terre, mais la terre vous transforme vous aussi, si bien que des humains qui sont enracinés sur telle partie du territoire dans le monde, eh bien, auront une coloration au niveau de leur spirit, de leur forme d'esprit, au niveau, vous voyez, des caractéristiques différentes de celui qui sera sur un autre territoire. Et l'universalisme n'a pas de sens au niveau politique. Puisque la cité, la polis, chez les Grecs, c'est ce qui a donné la politique, la cité, c'est la cité-État, hein, c'est pas la cité-banlieue, eh bien, la cité, la communauté politique, elle est toujours une réalité concrète et enracinée. Et le général de Gaulle, par exemple, en 46, dans son discours de Bayeux, où il annonce déjà les réformes constitutionnelles qu'il souhaiterait, enfin pour la France. Il reprend cette formule, enfin il rappelle, je vous le cite de mémoire, donc on demandait au sage Solon, donc qui était à Athènes et qui a fait la constitution d'Athènes, on lui demandait quelle est la meilleure constitution. Et Solon répondait, il faut savoir d'abord pour quel pays, quel peuple et pour quelle époque.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a toujours, la politique, c'est concret, c'est lié au particulier. Vous voyez, la façon dont, en fonction de l'état d'esprit national dont on fait de la politique en France est différente dont on le fait en Italie, aux États-Unis, en Afrique, dans les différents pays d'Afrique.
Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantal Delsol. Elle dit que ce mouvement vers l'universalisme, c'est un désir de créer un homme nouveau. Et que dans le fond, ils sont pas très contents avec l'homme ancien, que Dieu a plutôt raté son coup, que eux, ils vont d'abord se débarrasser des hommes anciens et ensuite faire un homme nouveau qui amènera le paradis sur terre. Donc là, c'est carrément une hérésie, non?
Ah ben oui, c'est se prendre pour Dieu. L'homme nouveau, du point de vue chrétien, il est réalisé par la grâce du Christ, au niveau individuel en chacun d'entre nous.
Mais c'est toujours individuel.
Par le don du Saint-Esprit qui travaille en nous et qui nous transforme de l'intérieur.
Mais il n'y a pas de solution collective. Il n'y a pas un homme nouveau qui apparaît. C'est que chaque homme doit se transformer individuellement.
Et il n'y a pas d'orthopraxie.
Par la grâce de Dieu.
Et il n'y a pas d'orthopraxie.
Par la grâce de Dieu qui travaille en nous. Et ça ne peut pas s'imposer de l'extérieur puisque c'est une réalité intérieure, cette transformation. Et c'est pas des manipulations génétiques qui vont faire un homme nouveau. C'est pas non plus en le contraignant de l'extérieur. Et donc, je crois que c'est, voyez tout ce qu'il y a derrière cette idée de patrie, de patriotisme, de nation. C'est très important. Et j'insiste pour dire, ne nous laissons pas piéger par les mots. Il y a quelques années, François Mitterrand au Parlement européen avait dit, le patriotisme, c'est légitime, c'est l'amour de la patrie, mais le nationalisme, c'est la guerre. C'est faux. Nationalisme, c'est l'amour de la nation. Et la nation, elle n'exclut pas. Elle est une communauté d'identité, de culture, d'histoire, et que nous devons faire respecter. Et nous avons droit de continuer cette identité. C'est un droit naturel.
Et c'est ce que, dans le procès de Jeanne d'Arc, il y avait un moment qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est quand l'évêque Conchon demande à Jeanne d'Arc, alors Dieu préfère les Français aux Anglais, et Jeanne d'Arc répond, il préfère les Anglais en Angleterre et les Français en France. C'est-à-dire que là, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une nation anglaise qui est une réalité, il y a une nation française qui est une réalité, et Dieu les aime bien toutes les deux.
Et chaque nation avec son caractère et son génie propre. C'est ça qui fait la richesse. C'est une espèce de pensée faussement, enfin égalitariste et qui est injuste, qui voudrait finalement supprimer toutes ces différences, alors que c'est cette diversité des nations avec leur caractère propre qui fait la richesse du monde et que le bon Dieu a voulu créer. Le bon Dieu crée, et on le voit à travers la nature, les fleurs, les paysages, etc. C'est la diversité qui montre la sagesse de Dieu dans la création. Donc vouloir tout niveler par le bas avec des...
J'avais lu un livre qui m'intéressait très bien, beaucoup, par un écrivain anglais qui s'appelait Trevor Roper, qui disait, vous vous mettez au 9e ou au 10e siècle, vous regardez l'Europe, vous avez l'Empire de Constantinople, et puis un merdier pas possible dans l'Europe, vous savez, tous ces pays qui sont en train de naître, qui ont des idées différentes, vous avez d'un côté la Ligue hanséatique, vous savez pas ce que c'est, le Saint-Empire romain germanique, et rien de tout ça, la France qui naît, les villes-états, donc c'est n'importe quoi, et vous dites, qu'est-ce qu'il va gagner? 90% des gens diront, c'est le truc qui est bien organisé là-haut, Constantinople.
On a
gagné parce qu'on était incroyablement divers. C'est pour ça que l'Europe a dominé le monde. C'était cette incroyable diversité qui se passait tous les 10 kilomètres, quoi. Vous baladez en France tous les 30 kilomètres, l'architecture change, la bouffe change. Et c'est ça qui fait la richesse de la France.
La richesse, exactement.
Qui pourrait croire que l'ordre spontané Voilà, c'est supérieur à l'administratif.
Mais voilà, donc si vous voulez, il y a une espèce de croyance chez les gens qui prennent le pouvoir que s'ils administrent bien, qu'ils contrôlent bien, ça ira mieux. Ben non.
Et il y a ce refus du particularisme.
Voilà.
Ça, c'est une erreur gravissime. Nous sommes là dans la question du particularisme face à l'universalisme. Il y a un universalisme, mais qu'il y a notre nature humaine commune, mais cette nature, elle est toujours incarnée. C'est-à-dire situé. Jésus n'était pas un Gaulois. Jésus n'est pas né en 350 de notre ère. Donc, il est né en un temps, en un lieu, avec aussi des caractéristiques ethniques, etc., avec une culture, une langue, l'araméen, etc.
J'ai été en Israël il y a quelques années, là, en Terre Sainte, et je me suis rendu compte qu'on était sur les traces de Jésus. C'est tout petit l'endroit où il s'est baladé. Je sais pas si vous, je veux dire, vous allez de Capharnaüm à Jérusalem et tout, ça fait quoi? Ça doit faire 30 kilomètres sur 40, quoi. Je veux dire, il a passé sa vie dans un tout petit espace géographique, on se dit.
Enfin, il a passé 3 ans dans un tout petit.
Pour son ministère public, oui,
oui.
Où il a prêché.
Avec ça, il était dans les déserts, il est resté où? Il était à Jérusalem, je sais pas ce qu'il a fait. Mais il y a eu extraordinaire, c'est de voir à quel point le territoire sur lequel Jésus a prêché était petit.
Il ressemblait à la Provence. Moi qui suis provençal, on y retrouve toutes les caractéristiques de la Provence, si bien que nos crèches provençales sont très ressemblantes de la réalité historique.
Voilà,
ce sont des très beaux oliviers. Le jardin des oliviers est vraiment très,
bien, très
émouvant.
Et puis les petits santons, ils sont très mignons. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les crèches. Donc la nation, la patrie...
Et le peuple. Il faudrait distinguer le peuple, car là aussi, il y a une nouvelle conception. Le peuple est aussi, au départ, dans la conception traditionnelle, un donné plus organique, en quelque sorte. Pour aujourd'hui, la conception dite républicaine, qu'est-ce que le peuple? C'est l'ensemble des citoyens. Mais dans cette caractéristique-là, donc ça n'inclut pas les mineurs, ça n'inclut pas les étrangers, et jusqu'en 44, ça n'incluait pas les femmes. C'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes. Donc, c'est assez réducteur parce que le peuple, c'est uniquement les citoyens actuels d'un pays.
D'aujourd'hui.
Alors que le peuple, il faut le concevoir comme l'ensemble de ceux qui constituent la nation, c'est-à-dire ceux du passé, dont nous héritons, les morts, c'est parti, ceux du présent et ceux à venir, les générations à venir. Le peuple français, c'est pas simplement la population d'aujourd'hui. Mais il faut le voir, je veux dire, d'une façon transcendante, en quelque sorte, comme cette famille, ce lien invisible qui unit les générations, le passé, le présent et le futur. C'est très important de concevoir le peuple comme ça. Si vous êtes un chef d'État, vous devez tenir compte de l'histoire de votre pays, de votre peuple, de ce qu'il est maintenant, et de penser aux générations futures quand vous prenez une décision.
Et c'est là où on voit que l'Angleterre... C'est pas mal parce que le roi, quelque part, est censé représenter le peuple anglais. Et le Premier ministre est censé représenter ceux d'aujourd'hui.
D'accord, je ne sais pas ça.
Et donc, si vous voulez, vous voyez bien qu'il y a une distinction essentielle entre les deux. C'est pas du tout la même chose, quoi.
D'accord.
Et je trouve que l'idée d'un roi qui représente, comme vous le dites...
Une transcendance,
l'histoire éternelle...
Une continuité de la nation...
Un être vivant, quoi.
Il y a un très fort attachement du populaire à la reine d'Angleterre.
Elle était incroyable. Et à la mère de la reine d'Angleterre. Quand elle est morte, la mère, il y a plusieurs années, tout le monde avait dit, il y a personne qui viendra à l'enterrement. Donc, en fait, il a fallu mettre des barrières parce que ça fait 3 fois le tour de l'église pour aller lui prêter hommage.
Ouais,
c'était
hommage. Ouais.
Donc, je crois qu'en effet, c'est ce que vous dites, c'est une notion importante. C'est vous avez la notion du peuple éternel. Et puis, vous avez la population d'aujourd'hui.
Éternel, du peuple tel qu'il s'est constitué sur le temps long, voilà. et qui doit inclure le passé, le présent et les générations futures.
Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du coup, très curieusement, ce peuple ne fait plus d'enfants.
Ça, c'est
un vrai problème, ça, parce que donc... Ce peuple est en train de se suicider, de se couper. Alors, que dehors de ça?
Je pense que c'est encore plus compliqué que ça, parce que là, on dit un peuple. Nous parlons de la France. Hein. Ce que je crains, et après on parlera de l'État, parce qu'il faudra aussi distinguer l'État de la nation, c'est très important. Je crains qu'en fait, la difficulté, un des défis de notre temps en France, c'est qu'il n'y a plus un peuple. Mais vous avez plusieurs peuples sur un même pays, si vous voulez. vous avez plusieurs peuples, puisque vous avez des, nous tendons vers une forme de communautarisme dans lequel nous ne partageons, nous n'avons plus de valeurs communes, forcément. Non seulement individuellement le lien social se disloque, mais aussi du point de vue communautaire, puisque cette transmission, cet héritage de, j'allais dire, de la tradition française avec sa culture, etc., n'est pas partagé par tous, et d'autres viennent avec leur culture et continuent à vivre dans leur culture. Donc le problème et le défi pour aujourd'hui en France, c'est que malheureusement il n'y a plus un peuple, mais il y a plusieurs peuples dans un même pays. Et ça, c'est une nouveauté et c'est un vrai problème à gérer qu'il faut voir en face.
Ce qui nous amène au rôle de l'État.
Alors voilà, maintenant il faut bien distinguer ces réalités, je dirais, qui sont des données organiques. Hein, la patrie, la nation, le peuple, il n'y a pas besoin que ce soit organisé politiquement sous forme d'État. Il peut y avoir une nation sans État. Par contre, un État, il existe forcément. Il faut qu'il y ait au moins une nation ou plusieurs nations.
Un territoire, des frontières.
Un territoire, des frontières, c'est la définition actuelle. Mais contrairement à la nation, contrairement au peuple, contrairement à la patrie, l'État est une création, en quelque sorte, est une invention de l'homme, c'est une espèce d'artefact juridique, une personne morale juridique qui est un instrument, qui doit être un instrument au service du bien commun de la nation ou du peuple. Il n'est qu'un instrument. Donc ça veut dire que l'État est fait pour le peuple et non pas le peuple pour l'État.
C'est très important ce que vous dites, parce que dans le fond, il y a toute une série de gens, au 19e, etc., qui ont, en Allemagne et en France, qui ont érigé l'État un peu comme une idole.
Exactement.
Qui ont créé une idole qu'ils adoraient. Et ça nous a amené au désastre de 14-18, etc. Donc, cet État qui doit être un État soumis, en quelque sorte, finalement, le problème qu'on a en sciences politiques, ça fait maintenant des siècles, c'est une fois qu'on a créé cet État qui a le monopole de la violence légitime, comment on fait pour qu'il ne martyrise pas ?
Exactement. C'est la caractéristique de l'État par rapport à toute autre forme d'organisation politique, à un degré inférieur, c'est qu'il a le pouvoir suprême de pouvoir contraindre à l'obéissance, et, d'où le monopole de la violence. Mais il ne suffit pas qu'il ait la légalité, il faut la légitimité. Il faut la légitimité. Et la finalité, donc rappelez d'abord que l'État est une création, ce n'est pas d'ordre naturel, c'est une construction humaine, juridique, que c'est une création qui est un instrument, ce n'est pas une fin en soi, un instrument n'est jamais une fin, hein. C'est un moyen, c'est un instrument, et que la finalité, donc ce pourquoi l'État existe, ce qui justifie sa légitimité, sans quoi il n'est pas légitime, c'est de servir le bien commun.
Et c'est là où on a un problème.
Ben voilà, quand on inverse l'ordre des fins et des moyens.
Quand on vous dit que le bien commun est automatiquement le résultat des actions du personnel qui gère l'État.
Ah, c'est faux, ça.
Et voilà, ben c'est ce qu'ils vous disent tous. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas l'État, ça veut dire que vous n'êtes pas pour le bien commun. Mais non, ça veut pas dire, ça veut dire que le bien commun tel que le définit l'État n'est pas automatiquement le bon.
Exactement. Et puis, comme l'État et la nation ne sont pas la même chose, c'est une erreur de fusionner les deux. Quelquefois, l'État peut faire quelque chose pour son bien, c'est-à-dire pour s'entretenir en tant que structure, qui
rester...
est totalement contraire au bien de la nation.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que disait, là où j'ai des problèmes avec De Gaulle, c'est qu'il disait d'abord il y a la France, très bien, ensuite il y a l'État, et en troisième il y a la loi. Eh bien, je trouve que mettre l'État en deuxième... ça me gêne parce que, bon, je sais bien que l'État a fait la France et a assuré sa survie et tout, mais je dirais d'abord il y a la France, et puis ensuite il y a la France, et puis après il y a la France. Quoi. Je dirais pas il y a l'État et il y a la loi, parce que tout ça me paraît moins important que la France.
Ben bien sûr, ce qu'il faut aimer, c'est la France, et j'allais dire comme une personne, oui. Une personne morale, et nous l'aimons, cette identité chargée, cette histoire, cette communauté humaine, cette famille, parce qu'en fait c'est ça dont on parle. Et ça, c'est pas la question de l'État. L'État, c'est une organisation juridique. La France, c'est d'abord, en tant que patrie, en tant que nation et en tant que peuple, une famille que nous devons aimer, qui est la nôtre, que nous héritons par la naissance et qu'on peut adopter aussi, qu'on peut être adopté dans cette... Mais je veux dire, on la reçoit d'abord. Ça se reçoit, la France. Être français, ça
et
se
si
reçoit.
Vous l'adoptez, si vous acceptez de devenir français, ça se mérite.
Exactement.
C'est-à-dire, comme la jeune personne qu'on a vue tout à l'heure, la jeune Congolaise qui est venue nous dire bonjour, là, qui était très sympathique, elle n'a qu'une idée, c'est de devenir française. Et donc, c'est comme si vous voulez le baptême par le sang dans l'Église catholique, vous pouvez être baptisé en devenant martyr. Même si vous avez déjà été baptisé, vous êtes...
Alors, de nos jours, tu peux aussi devenir catholique sans devenir martyr. Tu peux aussi...
Tu peux, mais quand tu regardes les statistiques officielles, il y a eu, je crois, 240 millions de personnes qui ont été attaquées en tant que catholiques l'année dernière dans le monde. Donc, le catholicisme reste quand même à peu près la seule religion
persécutée actuellement dans le monde.
Dans le monde, avec un petit peu les orthodoxes, ils avaient tué, les Russes avaient tué, je crois qu'ils étaient 30 millions de popes, il en restait plus que 3 millions ou quelque chose comme ça au moment dans 1935. Quoi. Donc, ils ont massacré les prêtres là-bas. Donc, il y a quand même aussi des forces obscures qui s'attachent à détruire et la nation et la patrie et toutes ces choses gentilles pour nous laisser qu'avec des
États. Et à le substituer par la religion pseudo-républicaine.
Oui, bien évidemment.
C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... l'existence de la France, à moins d'être révisionniste complet, vous ne pouvez pas nier que la France est une construction lente, une coagulation de l'action de l'Église catholique et des rois. Cette alliance entre le trône et l'autel. Voilà, ça c'est un fait, ça. Si vous niez ça, ben c'est que c'est pas possible. Donc comme on ne peut pas le nier, enfin plutôt on peut le nier, c'est ce que vous rappelez de Monsieur Onfray, puisqu'il dit la France commence à la Révolution. C'est-à-dire que donc on fait du négationnisme, tout ce qui a existé avant et qui a constitué la France n'existe pas.
Et je me souviens plus de l'auteur de ce livre qui revenait justement aux Gaulois et aux Celtes, et très clairement la nation existait avant.
La nation aussi, pour la plupart des historiens, existe à partir de Bouville.
Voilà.
C'est-à-dire la victoire de Philippe Auguste, où c'était les bourgeois de Paris qui sont sortis pour aller mettre une branlée aux chevaliers allemands. Mmh. Parce que.
Et pour dire, on
existe en tant que force.
On défendra la patrie, cette nation,
voilà. Donc,
avec laquelle on fait corps.
Il faut une conscience commune et un attachement, vous voyez, affectif. Il y a quelque chose qui n'est pas juridique, c'est là-dessus que je voudrais insister. On ne devient pas français par des papiers. La conception actuelle confond la citoyenneté et la nationalité. Je veux dire, on donne des papiers, puis vous êtes français, alors que vous ne parlez pas français, vous n'aimez pas la France, ni rien du tout. Être français, ça correspond à le fait de porter en soi, d'aimer et d'essayer de vivre cette identité, ce capital, encore une fois, de valeurs, de culture, de voilà, que
d'ailleurs,
nous héritons.
C'est quelque chose que l'on peut entendre dans les médias, c'est dire, j'ai entendu ça chez certains politiques, ils disent que vous êtes des Français de papier. Mais c'est vrai, quelquefois, des gens ont reçu leur papier, mais malgré tout, ne font pas corps avec l'idée de patrie, l'idée de nation.
Exactement.
Et bien, c'était exactement le contraire de celui qui a écrit La promesse de l'aube.
De Romain Gary,
il disait, c'était un juif ukrainien, il disait, je n'ai pas une goutte de sang français en moi, mais la France coule en moi.
Voilà.
Et bien, c'était un homme, si vous voulez, il a fait Normandie-Diemen, il était plus français que n'importe qui. Donc, quelque part, en effet, je pense que la France, c'est presque une histoire d'amour, quoi. Vous devez aimer ce pays.
J'aimerais qu'on revienne quand même à l'idée. Donc là, tu as soulevé Romain Gary et ça nous ramène à Renan. Donc
oui.
Renan, qui nous ramène à nos amis de l'Est, Coustel de Foulanges et ainsi de suite. Et ça ramène l'idée quand même, dans quelle mesure, comme vous parlez du lien d'attachement et des racines qu'on peut avoir antérieurement, et on voit dans certains milieux identitaires cet attachement qu'on peut avoir à cette notion de français de souche, dans quelle mesure la volonté...
Je préfère héritage, la France c'est un héritage.
Alors, mais dans quelle mesure la volonté de l'homme peut se substituer ou en tout cas être supérieur à ses racines historiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Madame Congolaise que vous avez vue dans la rue, est-ce que par sa simple volonté, elle peut devenir quelque part une aussi bonne Française que un Bourguignon depuis 18 générations ?
Si elle rentre dans cet héritage, c'est-à-dire si elle l'aime, si elle se l'approprie, mais ce qui suppose qu'elle quitte Aussi, c'est un deuil à faire pour elle, qui sera plus facile sans doute pour ses enfants qui seront nés ici, qu'elle quitte, qu'elle perde, qu'elle accepte ce deuil d'une autre identité.
Un peu comme préférer... le baptême de Clovis, brûle tes anciennes idoles.
Exactement, et c'est une préférence. À un moment donné, je reviens sur cette métaphore du mariage, mais à un moment, je veux dire, quand vous vous mariez, vous trouvez que votre femme est très belle et vous l'aimez, il y a sans doute d'autres belles femmes qui existent dans le monde, mais c'est celle-là, et puis voilà. Donc choisir, c'est renoncer.
Bien sûr.
Voilà. Donc si on choisit la France, on doit préférer la France et on doit faire le deuil et renoncer à d'autres identités parfaitement légitimes. Mais voilà, il faut une, c'est une question de loyauté.
Est-ce qu'on peut avoir deux identités ?
Moi, je ne crois pas.
Vous ne croyez pas ?
Je ne crois pas, d'autant plus qu'elles peuvent être contradictoires. Imaginez que on se trouve dans une situation où deux pays, je ne sais pas moi, je suis franco-algérien. Bon, si je suis franco-algérien, puis nos deux pays rentrent en guerre, alors je serai quoi moi ? Vous comprenez, c'est pas possible. À un moment donné, voilà, je ne crois pas à une double identité. Ça s'appelle la schizophrénie. Hein,
oui, c'est une belle formule. Choisir, c'est renoncer. Et en effet, choisir, c'est renoncer, c'est-à-dire
d'accord. C'est un acte d'amour. Si je préfère, je suis prêt à sacrifier autre chose.
Voilà. Et choisir, c'est renoncer. Donc,
et la préférence n'est pas la haine, ça c'est très important. Mmh. On a le droit, c'est la nature même de l'amour. C'est ça qu'il faut répéter. L'amour est préférentiel, il est électif. Je veux dire, et si j'aime quelqu'un ou que je préfère quelqu'un, ça ne veut pas dire que je déteste les autres, en aucune façon. Et c'est toute l'idéologie actuelle qui, à mon avis, est criminelle pour nous empêcher de vivre ce patriotisme, cet amour de notre pays, de vouloir toujours le culpabiliser, y ajouter une connotation raciste, y ajouter une connotation de je ne sais pas quoi, négative.
Mais vous noterez qu'il n'y a plus d'amour dans rien. Justement, si quelque chose aujourd'hui, les jeunes souffrent d'un désamour de tout, ils n'ont même pas d'attachement pour autrui, le mariage étant, à part chez certains catholiques qui désormais se réveillent, mais les jeunes aujourd'hui souffrent d'un désamour d'espoir et ils ne s'attachent plus à rien, ils n'ont plus de figure politique auxquelles être attachés, ils n'ont plus de petites amies auxquelles être attachés, ils n'ont plus de famille auxquelles on leur dit d'être attachés, ils flottent.
Oui. Ils flottent, mais c'est en même temps...
Et on leur dit qu'être patriote, c'est être xénophobe. Donc
face à la civilisation de la mort, comme disait Jean-Paul II, celle qui met en valeur une culture de la mort, nous devons promouvoir en tant que catholiques, encore une fois, comme le disait Saint Jean-Paul II, une civilisation de l'amour. Et l'amour, c'est le lien.
Et l'amour, c'est la vie.
Et l'amour, c'est la vie.
C'est la transmission de la vie en particulier.
Voilà. Donc nous, en se battant pour la patrie, pour l'amour de la France, nous battons pour une civilisation de l'amour. Voilà.
C'est intéressant parce qu'en français, qui est quand même une belle langue, quand les Français dans les campagnes vous disaient...
Franchement, je pense que c'est la plus belle. Hein.
Oui, moi aussi. Il est de mon pays. Ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire qu'il était de mon village, mais qu'il était français aussi. C'est-à-dire qu'il y avait, dans l'expression populaire, il y avait avoir un pays, c'était un Français qui était du même village que vous. Quoi. C'était rigolo. Donc cette expression de pays, ça recouvrait à la fois la particularité du petit village et puis le fait que c'était la France. Quoi.
Et c'est le réalisme de l'incarnation. Encore une fois, c'est antérieur à des questions juridiques. De même que le fait d'être dans une famille, de naître de parents, d'avoir des frères et sœurs, des liens familiaux, ça ne se choisit pas, ça s'hérite. Ça s'assume et après ça se développe, mais c'est pas une question juridique, les liens familiaux. Vous voyez ce que je dis? Eh bien, c'est du même ordre, à mon avis, analogiquement, au niveau de la nation, de la patrie, du peuple, etc.
Alors, parlez-moi du contrôle également du langage par cette nouvelle religion.
Nouveaux ayatollahs du peuple.
Oui.
Eh bien, c'est bien. Alors, je pense que nous sommes dans une guerre sémantique parce que les mots, derrière les mots, il y a les idées.
Donc, bien sûr,
quand vous voulez attaquer une idée, vous discréditez le mot ou vous éliminez le mot pour que l'idée disparaisse à terme. Hein, donc, ne parlez plus liberté en disant que la liberté, c'est pas bien. Vous interdisez l'usage du mot. Et comme le mot est l'expression d'un concept, après, vous perdez l'idée même de liberté, par exemple. Donc, j'invite nos auditeurs à vraiment ne pas se laisser piéger. C'est une question, j'allais dire, de stratégie guerrière. Il y a, de mon point de vue, nous sommes dans une espèce de combat, de guerre, dans lequel, d'un côté, vous avez des mondialistes avec leur conception apatrides du monde, qui voient les intérêts non plus au niveau des relations humaines, mais peut-être du profit qu'ils peuvent en tirer à leur niveau. Et puis, vous avez justement les peuples et les nations qui sont le cadre naturel, en quelque sorte, de l'existence humaine, le milieu d'épanouissement des personnes.
Je vous arrête ici, mon père, c'est mondialiste. En fond, les peuples, les nations, les pays, comme je dis, c'est là où les gens trouvent leur solidarité. Donc quand ces mondialistes ont en face de vous, en face d'eux, de ces gens qui sont bien organisés en comité, en club de rugby, etc., ils ont des vrais ennemis, mais si vous réussissez à les atomiser,
exactement,
qu'ils soient
exactement
tout seuls, donc c'est pas le profit, c'est le désir que nous soyons tous seuls face à un immense Moloch.
Ouais. C'est pour la servitude, c'est pour nous asservir.
C'est pour nous asservir individuellement. Comme dans le fond, nous, on cherche à libérer les gens individuellement, ils cherchent à nous asservir individuellement. Et pour ça, il faut qu'ils cassent les structures de liaison.
Exactement, c'est ça, casser les structures de liaison, exactement.
Ils ont admirablement réussi avec la famille, avec le couple et avec...
L'école maintenant.
L'école, bien sûr, depuis un bon moment, depuis mai 68, avec les structures locales et avec l'église et avec la patrie.
Et avec quelque chose comme les mairies, autrefois le maire. Le maire, c'est celui qu'on allait voir quand ça marchait pas, mais maintenant il dit je peux rien faire parce que je fais partie d'une communauté de communes.
Mais comme c'est une guerre, il faut avoir de la stratégie, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais aller sur le terrain de l'ennemi parce que ça lui est favorable. Donc on n'est pas obligé, d'accepter les concepts que nous impose l'autre. Voilà. Donc moi j'ai rappelé ici, j'ai redéfini de façon, je pense, assez traditionnelle des concepts de base et si importants de patrie, de nation, de peuple et d'État dans le sens et je ne vois pas pourquoi on m'imposerait un autre sens que celui-là qui peut se justifier historiquement. Voilà. Et donc dire.
Alors quels sont les mots qu'on doit refuser ? Dites-moi tout là. Quels sont les mots de nos ennemis ?
On doit refuser leur qualification, leur définition du patriotisme comme quelque chose de rance, de la nation comme quelque chose d'étatique.
De chauvinisme, de crypto-raciste, de je sais pas quoi.
De xénophobie qui serait reliée, toute notion de patrie serait xénophobe. Et ensuite, il faut simplement dire, écoutez, on va définir les mots. La patrie n'est pas une sémantique négative. C'est-à-dire, à chaque fois, ils minorent les termes et ils les associent. Ils font du reste pareil avec le terme de libéralisme. Que n'avons-nous entendu d'ultra-libéralisme, de néolibéralisme, afin de nous couper de nos racines antérieures et de nous couper de tout substrat libéral et de des fondateurs, des grands penseurs.
Si donc, j'ose dire, le plus grand libéral, comme j'ai essayé de le prouver à plusieurs reprises, c'est le Christ, donc, qui cherchait le salut individuel et non pas des idées collectives.
Il nous incite à la liberté et à la responsabilité individuelle. Le salut, c'est le consentement libre de la personne à la grâce que Dieu nous propose.
Voilà. Est-ce que j'ai essayé d'expliquer aux gens, j'ai eu une réunion récemment, j'aurais dit que Huntington, il disait qu'il y a toutes les civilisations qui n'ont qu'un seul but, c'est la survie du groupe. Si vous voulez, du groupe, de l'État, de la vie, etc. Et la seule qui est complètement différente des autres, c'est la civilisation chrétienne, parce qu'elle a comme but le salut individuel. Donc d'un côté, il faut sauver le groupe à tout prix, et de l'autre côté, il n'y a que le salut individuel qui nous motive. Donc on a été dans une civilisation tout à fait exceptionnelle, où la recherche du salut individuel a amené à des avancées prodigieuses. Mais il faut le dire, ça aussi.
Oui, je suis bien d'accord. Mais il y a donc des ennemis... j'allais dire du patriotisme, de la nation, de l'amour de la nation. Mais je pense que ça a produit. Alors il faudrait demander peut-être à ceux qui nous écoutent si certains ont des compétences historiques, sociologiques, pour trouver vraiment, et peut-être votre opinion aussi, savoir cette haine de soi, ce qui est la caractéristique, qui est le fond en quelque sorte. On a développé depuis quelques années, après la Seconde Guerre mondiale, on a développé en France, parce que ça n'existe pas ailleurs.
Si, ça existe en Angleterre, ça existe aux États-Unis.
Si, le mouvement woke est né de cette haine et de cette volonté de créer l'homme nouveau, ce qui est toujours.
La haine de soi, vous l'avez en Angleterre, vous l'avez aux États-Unis,
vous
l'avez en
Allemagne.
Vous êtes obligé,
à partir du moment où vous dites « je vais créer un homme nouveau », vous êtes obligé de dire que l'homme ancien était nul et qu'il faut le piétiner.
Oui.
Et quand ce wokisme, littéralement woke, ça veut dire se lever, se réveiller, donc c'est véritablement un réveil du peuple. Et ça, c'est toujours quelque chose que les gauchistes ont eu de chevillé au corps, depuis Rousseau et depuis avant, c'est de dire quelque part, la société est bonne et l'homme, il est perverti par cette même société. Alors que nous, raisonnablement...
naturellement bon, mais c'est la société qui le pervertit.
Alors que nous, catholiques, nous savons que l'homme est relativement un petit peu nul, et parfois, certains d'entre nous, on est capable d'un geste un petit peu plus farouche, et parfois,
on sait qu'on est pécheurs, le mal passe en nous.
Parfois de génie, mais très rarement, sinon on essaie de faire nos vies, et ma foi, de se débrouiller un peu au jour le jour. On essaie.
Mais le péché originel n'est qu'une blessure sur notre nature, c'est une blessure, mais ça n'est pas une corruption de notre nature. Nous ne sommes pas mauvais, dans le sens où, parce qu'il faut quand même nous rappeler que nous sommes créés à l'image de Dieu.
Bien sûr.
Et le mal, c'est en fait la privation d'un bien. Donc au départ, Dieu crée toute chose bonne parce qu'il est bon, tout ce qui sort de lui est bon, et dans un temps second, le mal vient de la corruption d'une réalité bonne. Par exemple, la maladie, c'est quoi ? C'est la privation de ce bien qui est la santé. Mais ce qui au départ est voulu et constitué par Dieu, c'est la santé. Et la privation de la santé, ben, c'est un mal.
Mais nous, tous les jours, nous pouvons essayer de faire le bien.
Mais bien sûr.
Tous les jours, je peux m'élever en me disant,
mais
aujourd'hui,
ça veut pas dire qu'on y arrive. Bien ça ne veut pas dire qu'on y arrive, parce que, mais il faut savoir.
Avec la grâce de Dieu, pour un chrétien, nous sommes libérés de ce poids du péché. Nous sommes, en quelque sorte, élevés, comme vous dites, tirés vers le haut, par la grâce de Dieu. Il y a donc une coopération, c'est pas moi tout seul sans Dieu, c'est pas non plus Dieu tout seul sans moi, c'est ensemble, c'est une coopération entre l'action de Dieu et nous-mêmes qui nous transforme.
Cette coopération, il faut qu'elle soit volontaire de ma part.
Exactement, on n'est pas des pantins, on n'est pas des machines. Donc le bon Dieu utilise, suscite notre liberté.
Et inversement, si on ne vient pas le chercher, ça n'arrivera pas tout seul non plus. On ne va pas se réveiller un jour.
Après, vous savez, le bon Dieu, dans sa providence, il veut faire feu de tout bois. C'est-à-dire, le Seigneur essaye de rejoindre tout homme, quel qu'il soit, où qu'il soit, quelle que soit sa condition, quel que soit son parcours.
Et c'est pour ça d'ailleurs que Judas s'est suicidé, c'est qu'il n'y a pas cru.
Il n'a pas cru à la miséricorde de Dieu qu'il pouvait être pardonné, qu'il pouvait changer.
C'est ça qui l'a condamné. Ah oui. C'est qu'il n'a pas cru à ça.
Mais peut-être pour conclure, on pourrait voir des actes concrets de résistance, si j'ose dire, continuer la France. Parce que la France, elle continue à travers ceux qui la vivent, à travers les Français, ceux qui veulent continuer.
Alors, déjà, faire des enfants.
Bah oui, il faut qu'il y ait des Français, il y a quand même une guerre démographique, un pays qui n'a plus d'enfants, ça c'est évident.
Et si vous n'avez pas d'enfants, vous pourriez rien transmettre.
Exactement, c'est la fin de
la transmission.
Et c'est pas par les appels extérieurs que va se transmettre ce patrimoine dont on a parlé, puisque ce patrimoine il se transmet de façon vivante dans la chaîne des générations. Donc faire des enfants, quelque chose aussi élémentaire, de très concret, parler français, c'est-à-dire essayer d'éviter les anglicismes, etc., de faire un effort. Notre langue est si belle. Enfin, essayer vraiment de... Alors, la difficulté qu'on a dans tout ça, c'est que l'organe de transmission, normalement, de cette connaissance, c'est l'éducation nationale, pour la plupart, et que souvent, cette éducation nationale ne remplit pas son rôle pour des raisons idéologiques, non pas de moyens, mais d'idéologie.
J'ai envie de vous dire, mon père, for sure.
Ouais, c'est ça. Comme Macron, là, qui joue à Top Gun.
For sure.
Ensuite, donc, parler français. Alors, une petite chose simplement sympathique. J'ai consulté l'autre jour sur Internet l'Office québécois de la langue française. C'est très beau parce que vous avez les traductions des mots anglais en français, en fait, pour essayer d'utiliser des mots épinglette plutôt que pins, etc. Divulgacher plutôt que... spoiler, etc. Voilà, faisons un effort pour essayer de parler français et de nous nourrir de la littérature française, de nos romans qui sont magnifiques. Il n'y a pas besoin d'être un lettré pour ça. C'est l'amour du beau, quoi.
Oui.
C'est quand même l'amour du beau.
Moi, ça m'amuse que quand j'étais au Québec, un jour, j'ai dit « j'étais un peu pompette ». Ce qui est une expression racine française qui veut dire que vous avez un peu trop bu.
Voilà,
et le type était mort de joie parce que pompette, pour lui, c'était un mot qui était typiquement québécois.
D'accord.
C'était pas français.
Eh oui.
Et donc, il a été mort de joie parce qu'il se disait...
C'est du vieux français. En fait, souvent, les expressions québécoises datent de Louis XIV.
Des Normands qui sont arrivés là-bas.
Exactement.
Il y a 60 femmes qui ont fait la quasi-totalité du Québec qui arrivaient avec Louis XIV. Là.
Après, je pense que concrètement aussi, il faudrait cultiver... l'esprit français. Alors, je retire trois caractéristiques, mais chacun pourra en ajouter ou pourra... Je vois d'abord la courtoisie. La courtoisie est une caractéristique aussi, il me semble, de notre civilisation française, en quelque sorte. Cette finesse, cette délicatesse, et aussi dans sa forme particulière vis-à-vis des femmes, qui est la galanterie. Voyez ? Et donc, ça, je crois qu'il faut vraiment cultiver cette courtoisie, cette galanterie.
La politesse, allez.
Oui, c'est ça. Oui, c'est une politesse fine.
De prévenance.
Mais paradoxalement, une autre caractéristique, c'est ce que j'appellerais la gauloiserie.
Oui.
C'est-à-dire une espèce de gaieté un peu licencieuse, un peu, voyez,
un peu bravache,
etc. Mais ça, c'est l'esprit français. Mmh. C'est le, voyez.
C'est ce bon.
L'esprit rugby, un peu.
Voilà, c'est après un match de rugby, on fait des trucs.
Rabelais. Et en troisième élément, peut-être de caractéristique de l'esprit français, je verrais aussi l'ironie. Une forme d'humour très subtile au second degré qui est capable de faire une critique sans attaque frontale en laissant comprendre ce qu'on pense vraiment en disant l'inverse, en sachant
l'esprit
qu'on sera compris.
Un peu voltairien, si on devait s'en référer au...
De l'ironie.
L'ironie, c'est au Cyrano de Bergerac.
Exactement.
À la fin de l'envoi, je touche. C'est-à-dire, j'aurais aimé que vous me disiez que j'avais, ouais, je sais pas, une péninsule.
On aurait pu dire d'autres choses en somme.
Oui, donc c'était...
Monsieur, vous en êtes un autre.
Et enfin, il me semble que... qui culmine ou qui rassemble tout ça, qui englobe tout ça aussi, qui, eh bien, je pense qu'un point très concret aussi pour continuer la France, c'est de retrouver la foi de nos ancêtres. C'est-à-dire cette foi catholique qui a forgé, qui est l'âme de notre pays, qui est même l'ADN en quelque sorte de notre pays. C'est pour ça que, en tant que France, elle est rejetée par certains, puisqu'elle est très, elle est marquée, la fille aînée de l'Église, de retrouver, de savoir reconnaître tout l'apport de l'Église dans l'histoire de notre pays, la contribution directe de l'Église avec la monarchie pour construire notre pays, les traces qu'elle a laissées dans l'art, dans la culture, etc. Mais rappelons-nous aussi que nous sommes quand même une civilisation dans laquelle on respecte des jours de repos, des jours de fête qui sont chômés pour des motifs religieux. Nous sommes structurés dans le calendrier par les fêtes chrétiennes. Enfin, normalement, nous sommes structurés par ces fêtes chrétiennes. Rappelons-nous aussi tout le bien qu'a pu faire l'Église au niveau social. C'est pas l'État qui s'occupait des vieillards, des malades, des enfants, des tout ça. C'est l'Église qui a créé les hospices, qui a créé les hôpitaux, les pensionnats, les écoles, etc.
Les écoles, les universités, le droit.
Puisque je suis dans un cadre économique. Oui. Le monde piété.
Oui.
Le prêt sur gage pour pas avoir de prêt usurier.
Ma tante, comme on l'appelait.
Ma tante,
ah, je savais pas.
Ah oui, parce que quand on allait prêter, en tout cas à Paris, qui est dans le Marais là, souvent on avait un peu honte. Alors on disait je vais chez ma tante.
D'accord.
Ça voulait dire je vais.
Je vais au mont piété.
On va poser les bijoux de famille.
Voilà,
pour
ceux qui ne connaissent pas, l'usage voulait vous amener votre collier de perles. On vous prêtait 200 francs et vous aviez en général 2-3 mois pour ramener l'argent, ou alors les bijoux étaient vendus. Et alors évidemment, vous n'en tiriez pas, imaginons que le collier vaille en vrai, en marché, 800, mais c'était 200 que vous pouviez avoir tout de suite pour payer une crêpe,
et en même temps, le vendant 800, ça permettait de continuer à prêter à tout le monde pour maintenir la société en... Donc c'était pas
mal. Et encore maintenant, ça fonctionne. Hein. Vous pouvez aller... Alors, ils récupèrent évidemment des sociétés, des invendus, et vous pouvez aller prêter sur gage tous les jours si vous voulez. Vous avez une Rolex, on vous donne de l'argent, et puis vous avez un certain temps pour aller la rechercher ou pas.
Donc là, nous avons couvert un sujet qui est très intéressant. C'était donc l'histoire de notre pays, la nation, la patrie, etc. C'était parfait. Et alors, la fois prochaine, on va essayer de discuter avec vous d'ici 2-3 mois quand vous reviendrez. L'idée, dans le fond, cet État, cette nation, il fonctionne bien si ceux qui sont à la tête cherchent le bien commun, quoi. Ce sera ça. On va essayer de définir ce que c'est le bien commun.
Ce qu'est le bien commun, parce que soit on n'en parle jamais, soit quand on en parle, c'est pour dire n'importe quoi.
Voilà.
Donc on essaiera effectivement de définir le bien commun. Mais si vous me permettez, comme dernier acte de résistance en lien avec ce que nous venons de dire sur l'identité chrétienne de la France, et il y a un retour, vraiment, on voit toute une jeunesse qui est en confrontation notamment de la présence très importante des musulmans, se pose des questions sur ses racines, son identité, et qui, par le biais culturel, réapproche le christianisme. Et ça,
il y a un mouvement très clair
qu'il faut que l'Église catholique doit accompagner, qu'il faut purifier, transformer, qu'il faut nourrir aussi. N'oublions pas aussi cet acte très concret, très puissant et mystérieux qu'est la prière. pensons à prier pour la France, prions pour notre pays. Agissons pour ce qui dépend de nous et confions notre pays. Rappelons-nous que la Très Sainte Vierge Marie, dans le mystère de son Assomption que nous fêtons le 15 août, est la patronne principale de la France, avec en patron secondaire Saint Michel, Archange, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis, tous ces saints protecteurs de la France, comme le roi Saint-Louis, comme Saint-Denis, comme Saint-Martin de Tours, etc. Vous voyez, nous avons aussi toute notre la famille, comme on le disait, la famille française. C'est pas simplement les vivants d'ici et maintenant, c'est aussi tous nos ancêtres qui prient pour nous, pour notre pays, les saints canonisés par l'Église que je viens de citer, mais aussi les anonymes, tous ces milliards, je pense, de Français, ceux qui ont existé avant nous et qui veulent que la France se continue tant que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Après, nous nous retrouverons tous dans la patrie commune qui est le paradis éternel. Mais en attendant et en raison du réalisme de l'incarnation, nous devons aimer et servir notre pays ici et maintenant. Pour le transmettre.
Ouais, c'est très bien.
Voilà. Vous me donnez presque envie d'applaudir, mais on ne va pas le faire parce qu'on est entre nous. Mais j'applaudis dans ma tête. Voilà.
Voilà. J'applaudis. Donc, merci. Donc, on va essayer de faire ces émissions une fois tous les deux mois ou quelque chose comme ça, de façon à ce que vous puissiez transmettre à ceux qui nous écoutent. Moi, j'essaye de leur transmettre les domaines où je connais un petit peu avec Emmanuel, l'économie, la philosophie, etc. Bon. Mais vous avez cette espèce de trésor de l'Église que vous, si j'ose dire, votre devoir maintenant, c'est de le transmettre. Donc, je pense que peut-être cette façon de le transmettre qui est peut-être un tout petit peu plus efficace que le prêche du dimanche.
Les deux se complètent. L'avantage qu'on a ici, c'est de bénéficier des 200 000 personnes, bon, un peu plus maintenant,
400 000,
oui, sur notre chaîne, ce qui permet de toucher un public plus large. Et vous aussi, dans ce message de foi et d'espérance, essayez d'en parler autour de vous. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis, visionnez-la ensemble, posez-vous les questions qu'on s'est posées.
Et posez des questions au père.
Posez les questions au père aussi. Parlez-en avec vos enfants, parce que moi, c'est des choses dont j'essaie de parler désormais avec les miennes qui sont grandes, parce que poser des questions sur sa propre foi, sur la façon dont on s'inscrit dans ce patrimoine éternel qu'est notre France, et comment on va transmettre les uns aux autres, je trouve que c'est une belle question à se poser en famille et pour s'inscrire dans un temps plus long. Voilà. Voilà.
Eh bien, merci de me permettre de le dire.
Merci au Père Milan d'être venu à notre rencontre une fois encore. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On les retransmettra et on essaiera
Il va y avoir le truc. Vous pourrez poser des questions et le Père Milan, il pourra aller répondre directement à vos questions si vous en avez.
Si vous en avez. Et nous, on vous dit encore une fois, très bientôt pour une nouvelle émission dans la joie et la bonne humeur.
Et vive la France.
Et vive la France.
Nous voulons.
Merci beaucoup.